texte ce matin. Nous allons terminer notre étude du chapitre 18. Nous avons déjà vu la chute de Babylone la Grande, le système politique et économique. La semaine dernière, nous avons vu la réaction de la terre à l'égard de cette chute. Et ce matin, nous allons voir la réaction au ciel et ce que cela nous révèle. Alors, nous allons lire à partir du verset 20, Apocalypse chapitre 18. « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule. Il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joies de harpe, des musiciens, des joies de flûte et des joies de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et l'on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Et j'ai intitulé mon message ce matin, « Le jour où le ciel a chanté ». Et ce que nous allons voir ce matin, c'est ce que cette réjouissance au ciel nous révèle. Nous avons vu la semaine dernière ce que les lamentations sur la terre révélaient. Et ce matin, nous allons voir ce que les réjouissances au ciel nous révèlent. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine diapo? Je vous pose une question ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Une couple ici, mais là, vous avez aussi des personnes. OK, on peut avoir la prochaine. Y a-t-il ici trois colonnes? Si vous montez en haut, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? OK, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Un visage, mais si vous lisez l'anglais, là, vous avez L-I-A-A, liar. OK, prochain. Qu'est-ce que vous voyez là? Comment? Non. Oui, ça c'est L, ça c'est I, ça c'est F-T, lift. OK, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous voyez là? Ah oui, ah, quelqu'un qui a de très bons yeux, oui. Vous avez ici un fœtus avec ici. Ou bien on peut voir la mer et ainsi de suite, les pieds. Bon, vous êtes des bons observateurs. Et vous savez, ce que vous avez vu ce matin, ça dépendait, ou ce que vous n'avez pas vu, ça dépendait de la manière dont vous regardez ces images. Je vais vous proposer une autre activité. Je vous demande de regarder votre voisin, votre voisine. Et la question que je vous pose, qui voyez-vous? Et je suis sérieux, qui voyez-vous? Je vous pose une question. Est-ce que vous avez vu Jésus? Oh! Vous pouvez me dire, mais ma voisine, cette personne-là n'a pas l'air de Jésus. Mais je vous dis encore, regardez comme il faut. Est-ce que vous voyez Jésus justement dans votre voisin, dans votre voisine? Et laissez-moi vous dire que si vous avez échoué le test, c'est parce que vous ne regardiez pas votre voisin, votre voisine, avec les yeux du Père. Parce que Dieu nous voit, Dieu vous voit purifié par le sang de son Fils, un avec Jésus-Christ. Et quand vous regardez, justement, quand Dieu regarde à travers le sang de Christ, Dieu voit son Fils. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Saul de Tarse qui persécutait les chrétiens, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Parce que nous sommes un avec Jésus-Christ. Et vous savez quelle différence cela ferait dans nos églises, dans nos couples, dans nos relations les uns avec les autres, si on était capable de voir le Christ dans les uns les autres. Alors ce matin, notre texte nous révèle des choses que la terre ne voyait pas lors de la chute de Babylone, mais que le ciel voyait. Des choses, et c'est ma prière ce matin, que Dieu va utiliser justement ces choses pour les appliquer à nos cœurs avec puissance, pour que vous et moi, nous soyons encouragés, nous soyons fortifiés, et Dieu aussi soit glorifié. Alors, la première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est qu'il y a une célébration au ciel. Et cette célébration-là, nous l'avons lu, révèle justement la justice de Dieu. La justice de Dieu. Regardez votre texte, s'il vous plaît, au verset 20. Et là, nous lisons, « Ciel, réjouis-toi sur elle. » Alors, il y a un appel à la réjouissance. « Ciel, réjouis-toi sur elle. » Un appel pour que le ciel soit en fête, tandis que la terre est en deuil. Un appel pour que le ciel éclate de joie, pendant que les hommes sur la terre crient « Malheur, malheur !» Et là, nous avons ici deux réactions qui sont diamétralement opposées. Deux réactions à propos de la chute de Babylone, qui sont tout à fait opposés. Et on peut se poser la question, mais qui dit vrai? Qui est-ce qui a l'air juste? Comment est-ce possible que ce qui cause la tristesse sur la terre, la douleur, le deuil, cause aussi de la joie au ciel? Et vous savez, la réponse est, tout dépend de la manière dont on voyait Babylone. Comment les hommes voyaient Babylone? Et comment aussi Dieu voyait Babylone. Et vous savez, les Écritures nous mettent sur notre garde à propos de cela. 1 Samuel 16, 7, pas besoin d'y tourner. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Et Dieu va dire dans Ésaïe 55, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et c'est pourquoi, quand les hommes voyaient la puissance que Babylone leur offrait, Dieu voyait les cœurs qui sont pris avec la convoitise de la chair et les cœurs qui sont corrompus par le pouvoir. Quand les hommes étaient éblouis par les richesses, le luxe, l'opulence de Babylone, Dieu voyait les cœurs qui étaient pris avec la convoitise des yeux. Et quand les hommes ont exclamé, quelle ville était semblable à la grande ville, Babylone la Grande, le joyau de leur empire, Dieu voyait les hommes qui étaient pris avec l'orgueil de la vie. Et ce que les hommes voyaient, qui à leurs yeux était un gain, Dieu, lui, voyait ce qui causait leur ruine, leur perte. La Bible nous dit que ce que sertit un homme, de gagner tout le monde s'il perd son âme. Les hommes ne voyaient que la prospérité. Les hommes ne voyaient que le pouvoir, la puissance. Les hommes ne voyaient que le prestige. Dieu voyait les hommes intoxiqués par l'idolâtrie, pris avec un système qui détruisait leurs âmes et pris avec un cancer spirituel. Le même cancer qui avait ruiné sa création et ça a commencé en Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Vous savez que dans le livre des commencements, nous avons Satan. La Bible nous dit qu'il est mentant, il est le père du mensonge. Et il incite Ève à manger du fruit défendu avec la promesse. Vous serez comme Dieu. Bref, vous n'aurez plus besoin de Dieu. Si vous prenez de ce fruit-là, vous serez comblés. Et quel mensonge! Et nous connaissons le résultat désastreux justement de cela, le péché qui est entré dans le monde, qui a amené les meurtres, les génocides, la tristesse, la honte, les gains, l'abus, les querelles, les disputes, la maladie, la mort, physique et spirituelle. Et cette liste ici n'est pas exhaustive, mais ça c'est une idée du cancer spirituel qui a rongé l'humanité et qui le ronge encore aujourd'hui. Et ça n'a pas changé. Dans le livre de l'Apocalypse, le livre maintenant de la fin, Satan revient à la charge avec le même mensonge, la même séduction. Et qu'est-ce qu'il fait? Babylone la Grande, c'est une illusion que Satan fait miroiter devant les yeux de l'humanité en leur disant qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu. Confiez-vous dans ce système. Confiez-vous dans cette ville où est-ce qu'il y a tant de pouvoir, tant de prestige, tant de puissance, tant de possessions, et vous serez comblés. Bref, vous serez vos propres dieux et vous pouvez être heureux sans Dieu. Et puisque Dieu est saint, puisque Dieu est juste, il fallait mettre fin au mensonge et à l'œuvre de Satan. Et ce qu'il va faire, il va détruire dans un premier temps le centre névralgique de ce système, Babylone, la grande ville. Et comme nous allons voir plus tard, il va détruire ses ennemis. Alors le ciel se réjouit. Le ciel doit se réjouir, non parce qu'il y a la mort, non parce qu'il y a de la souffrance, non parce qu'il y a le deuil, mais parce que finalement, la justice de Dieu avait triomphé. Et vous savez, non seulement il y a un appel général à la réjouissance, mais nous avons aussi dans ce texte ici un appel spécifique. Regardez votre texte encore au verset 20b. « Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. » Vous savez, les commentateurs ne sont pas tous d'accord en ce qui concerne l'identification de ces groupes. Sont-ils morts? Sont-ils vivants? Sont-ils au ciel? Sont-ils sur la terre? Qu'importe. Mais c'est une chose que nous savons ce matin, on ne peut pas être dogmatique, mais on sait une chose. Ces individus-là sont appelés à la réjouissance parce que le texte dit « Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Et dans l'original, cela veut dire littéralement, Dieu a fait selon vous ce que selon vous était la bonne chose à faire, ce qui était juste. Ou bien le juge vous a donné raison. J'aime beaucoup la version Parole vivante qui traduit cette expression comme suit, en la condamnant. Dieu a tranché en votre faveur. Il a tranché en votre faveur en vous faisant pleinement justice. Vous savez, cette réponse ici, cette destruction de Babylone est en partie une réponse aux prières imprécatoires de son peuple. Et si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir tout au long, nous sommes dedans, tout au long de ce livre, il y a ceux qui demandent à Dieu jusqu'à quand, maître, vas-tu tarder justement à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Et voilà ce matin pourquoi il y a un appel au ciel pour réjouir, de célébrer, parce que la justice de Dieu avait triomphé et Dieu avait répondu aux prières des siens en tranchant en leur faveur. J'espère que ce matin, vous êtes en train de vous réjouir. Vous savez, nous avons toutes, justement, les causes pour se réjouir parce que la justice de Dieu a triomphé sur la mort et sur l'enfer. Où est-ce qu'on voit cela? C'est à la croix. Jésus-Christ est juste. Par sa mort, il a satisfait complètement aux exigences que Dieu demandait en ce qui concerne le péché. Jésus-Christ a complètement et totalement payé la dette qui était due en ce qui concerne le péché. Et j'espère que ce matin, c'est pour vous, c'est une source de réjouissance. Nous devrions être aussi dans la joie et dans l'allégresse parce que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et sa résurrection est une preuve que la justice a triomphé. D'ailleurs, quelqu'un a dit que ce serait le comble de l'injustice d'avoir laissé Jésus au tombeau après tout ce qu'il avait fait. J'espère aussi que vous êtes en train de vous réjouir parce que la justice de Dieu a triomphé et Dieu a pu vous pardonner, me pardonner. Dans Romains 3, 26, ce texte nous dit « Il montre sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Et j'espère aussi que vous êtes dans la joie. Parce que même si vous mourrez à cause du fait que la justice a triomphé, vous allez prendre part à la résurrection des justes. Et ça, c'est un sujet de joie et de réjouissance. Et je pense ici à David dans Psaume 16. Il dit ceci, « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme, des jours des morts et tu ne permettras point à ton bien-aimé de voir la corruption. » David avait l'espérance. David était dans la joie à cause de cela. Et j'espère aussi que ce matin que vous êtes dans la joie et dans l'allégresse, non seulement parce que la justice de Dieu a triomphé, mais la justice de Dieu a tranché dans votre faveur. Vous saviez que quelqu'un vous a accusé la semaine dernière, hier, ce matin, peut-être même aussi en ce moment. Et c'est qui? Ça, c'est Satan. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il a dit, regarde, voilà un tel, il a péché, et tu es juste, tu devrais le détruire. Et que dit la Bible? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, Jésus est capable de dire à Satan, oui, c'est vrai. Mais regarde mes mains, regarde mes pieds. J'ai payé pour ce péché. J'ai payé pour ce péché. Et ce serait injuste de demander que ce péché soit payé de froid. Et d'ailleurs, cette personne que tu accuses est recouverte de ma justice. Et voilà Jésus-Christ le juste qui tranche et qui tranchera toujours en notre faveur. Comprenez bien que ce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Ce serait d'abuser la grâce de Dieu. Et après tout ce que Jésus a souffert sur la croix, ce serait injuste d'agir comme cela. Mais pour nous, ce matin, c'est une source de joie. J'espère que c'est vous aussi une source de joie, la justice de Dieu. Et j'espère aussi que la justice de Dieu est en train de triompher dans votre vie, dans vos relations les uns avec les autres. Vous n'êtes pas rempli d'amertume. Que vous êtes de ceux qui ont le pardon facile. Que, comme la Bible nous dit, vous vous supportez les uns les autres. Bref, vous êtes en train de mettre en pratique un verset que nous lisons dans Michée 6 au verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ceux qui ont connu la justice de Dieu et ceux pour lesquels la justice de Dieu tranche toujours en notre faveur, mais nous devrions être caractérisés aussi par la justice. Et comme les paroles de 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité ou la justice. Deuxièmement, non seulement la réjouissance au ciel, lors de la destruction de Babylone nous révèle la justice de Dieu, ça nous révèle aussi la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi le ciel est en fête, parce qu'il y a une révélation de la puissance de Dieu lors de la destruction de Babylone. Regardez votre texte au verset 21, s'il vous plaît. Un ange prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipité avec violence Babylone, la grande, et on ne la retrouvera plus. » Et vous savez, c'est très décevant d'expérimenter une fausse joie. Si on reçoit une nouvelle, puis on est tellement content, on est sur une high à cause d'un événement, une nouvelle, et oups, la situation change dramatiquement. Comme on dit en bon québécois, on vient de péter notre bulle. Puis la déception s'installe. Et je pense ici à un événement qui a eu lieu le 30 septembre 1938. Le premier ministre britannique, un nommé Neville Chamberlain, il a prononcé ces paroles devenues dès lors célèbres. La paix pour notre époque. En anglais, peace for our times. La paix pour notre époque. Et pour ponctuer ces paroles, il agitait justement un document qui portait deux signatures, la sienne et celle d'Adolf Hitler. Et Chamberlain était convaincu qu'il avait réussi à apaiser la soif du Führer pour plus de territoire. Il a terminé son discours en disant à ses auditeurs, « Allez-vous en paix et dormez tranquillement, paisiblement. » Un an plus tard, la machine de guerre allemande était en marche. L'invasion de la Pologne. Et ensuite les autres pays. Et vous savez, c'est un événement qui a plongé l'Europe dans un conflit sanglant. La Deuxième Guerre mondiale. Quelle déception. Mais dans notre texte ce matin, il n'en est pas ainsi. Vous avez le jugement qui est célébré au ciel, en fait, mais aussi Dieu va donner une démonstration pour certifier justement ce jugement. Et ça a pour but d'encourager le lecteur que Babylone allait non seulement être détruite, mais Babylone allait disparaître complètement. Enrayer, si vous voulez, la map. Et ça par la puissance de Dieu. Alors Dieu va donner deux symboles. Il y a le symbole de l'ange et la meule. Le texte nous dit qu'il s'agit d'un ange puissant. Juste pourrait se poser la question, mais puissant, oui, mais dans quel sens? Comment est-ce qu'on peut mesurer sa force? Est-ce que nous sommes devant un Superman, un Arnold Schwarzenegger? C'est quoi sa puissance ici? Mais je vais vous montrer la démonstration que Dieu donne. Le texte nous dit que l'ange va prendre une pierre semblable à une grande meule. Vous savez, ici, le commentateur nous dit que la meule ici, là, c'était la meule que les bêtes de somme faisaient tourner. 4 à 5 pieds de diamètre. Un pied d'épaisseur et une pierre qui pesait des milliers de livres. Il y a quelques années, moi et mon épouse, nous sommes allés dans le bout de Charlevoix, l'île aux coudes. Et là-bas, il y a justement un moulin à l'eau. Et j'étais impressionné justement par les meules qui sont là. Je vous dis que c'est toute une pierre là, qu'ils utilisent pour broyer justement le blé. Des grosses, très grosses pierres. Et le texte nous dit que l'ange doit prendre justement cette pierre. Et ce n'est pas tout. L'ange va lancer la pierre dans la mer. Imaginez le scénario. J'imagine que l'ange est sur la terre ferme, où est-ce qu'il va prendre la pierre. Et il doit la lancer assez loin pour qu'elle tombe dans la mer et qu'elle va disparaître. Et la pierre est pesante. Vous dites que ça prend tout un bras. Ça prend la force. Et là, c'est justement une démonstration de la puissance que Dieu va utiliser pour détruire Babylone. Et ça, c'est le sens du mot qu'elle sera précipitée avec violence. La force qui est dans le bras de cet ange pour lancer cette pierre, ça c'est la force que Dieu va utiliser pour détruire Babylone. Et deuxièmement, il y a un deuxième symbole, il y a le symbole de la meule et la main. Cette grande pierre pesante va couler justement à pic, va disparaître complètement de vue au fond de la mer. Et l'idée ici que Babylone va disparaître complètement de la vue des hommes. Dans l'original, il y a ce qu'on appelle un négatif emphatique. Le texte dit comme ceci. On ne la retrouvera plus d'aucune manière. Et ça, c'est l'emphase. Babylone va disparaître et ce n'est pas une question, on va célébrer justement la destruction, puis hop, c'est une fausse joie. L'idée ici est que sa disparition est permanente. Ça, c'est l'idée dans le texte. Elle va disparaître, mais complètement. C'est permanent, on ne le retrouvera plus. Et ça, chers amis, ça devrait être pour Jean et ses lecteurs une source d'encouragement. De voir la puissance de Dieu déployée. Et dans ce contexte ici, je pense aussi aux enfants d'Israël. Vous allez vous rappeler le contexte. Ils vont sortir de l'Égypte. Ils sont pourchassés par Pharaon et son armée. Et Dieu va déployer sa puissance pour engloutir justement Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Écoutez bien ce qu'ils vont dire. Exode 14, 31 nous dit ceci. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils ont dansé, ils ont fêté, ils ont chanté. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était pour eux une source de joie. Et écoutez ceci, « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et dans notre texte pour ce matin, Babylone a été précipitée, Babylone n'est plus, Babylone ne reviendra plus, plus jamais, alors que la fête continue. C'est ça, c'est l'idée ici dans le texte. La puissance de Dieu déployée lors de la chute de Babylone. Vous savez, est-ce possible que ce matin, vous n'avez pas envie de fêter? C'est possible de vous réjouir. C'est possible que, au lieu d'être encouragé, vous êtes plutôt découragé. Découragé par votre propre faiblesse. On a parlé de la puissance de Dieu, mais votre propre faiblesse vous décourage. Vos chutes, vos péchés. Le texte nous dit dans la parole de Dieu que ça nous enveloppe si facilement. Et peut-être ce matin, vous vous sentez comme si vous avez une meule autour du cou. Vous savez, je pense ici à l'apôtre Paul qui était dans une situation semblable. Et au lieu d'avoir la joie dans le cœur, qu'est-ce qu'il a dit? Misérable que je suis. Parce que dans sa vie, il expérimentait quelque chose de très difficile. Il a dit, je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Il n'y avait pas de joie. Il n'était pas en train de se réjouir. Il a crié, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Et vous savez, si vous êtes en train de vivre une telle expérience, j'aimerais vous encourager ce matin. Parce que la même puissance qui a détruit Babylone est aussi disponible aux chrétiens, aux enfants de Dieu, pour leur donner la victoire dans la vie chrétienne. Dieu a déployé sa puissance lors de la mort de Jésus-Christ. On l'a vu à la croix, à sa résurrection. Cette même puissance est disponible pas seulement pour nous sauver de la pénalité du péché, mais nous sauver du pouvoir du péché. Et dans ce contexte ici, l'un de mes versets préférés, ça se trouve dans Hébreux 5, 25, pas besoin d'y tourner, le texte nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, remarquez bien cela, vivants, pour intercéder en leur faveur. Il ne faut pas me méprendre ici, je ne parle pas d'une sanctification instantanée, ça n'existe pas. Parce que la sanctification est progressive. Mais le contexte de ce texte que je vous ai cité dans Hébreux nous dit une chose. Ceux et celles qui reconnaissent leur faiblesse et qui s'approchent de Jésus-Christ dans l'humilité et dans la repentance et qui se confient dans son intercession à la droite du Père, à leur égard, ceux-là connaissent la puissance de Dieu qui va les sauver justement du pouvoir du péché. Et ceux-là aussi vont retrouver leur joie. Alors nous avons au ciel le jugement célébré, la justice de Dieu. Le jugement de Babylone certifié à cause de la puissance de Dieu. Et troisièmement, nous avons le jugement qui est cautionné à cause de la sainteté de Dieu. Et ce qui peut nous paraître dans ce texte comme trop sévère, Dieu est impitoyable. Ce n'est même pas en conformité avec ce qu'on nous présente, l'image de Dieu, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour, un Dieu qui pardonne. Mais je peux vous dire que ce que nous lisons ici à propos de Babylone est cautionné à cause de la sainteté de Dieu. Dieu n'est pas seulement amour, il n'est pas seulement juste, mais il est saint. Et à cause de sa sainteté, il doit juger le péché. Et Babylone la Grande n'est pas exemptée. Les hommes ont refusé de se repentir. Alors, eux et leur système ont été détruits par un Dieu saint. Deux choses ici, vous allez voir dans le texte. Il y a la sentence et aussi il y a les évidences. Il y a des évidences qui ont incriminé Babylone, démontrant que le jugement de Dieu était mérité et justifié. Et quelle sentence de juste juge et de juge saint va imposer sur cette ville? Verset 22-23, on a une liste des choses qui ne seraient plus. plus de musique, plus de métier, plus de manger, plus de lumière, plus de mariage. Comme on dit en bon québécois, plus de son, plus d'image. Fini. Et vous savez, dans Jérémie, chapitre 7, au verset 34, Dieu avait dit presque la même chose à propos de son peuple Israël. Il a dit ceci: « Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. » Et ce même prophète avait parlé aussi après de la restauration d'Israël, en disant ceci: « On entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert. On entendra dans les villes de Juda et de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et des cris d'allégresse et les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et ça, c'est à cause de la grâce et la miséricorde que Dieu témoigne envers Israël pour la restaurer. Mais pour Babylone, parce que cette ville et des habitants ont refusé de se repentir, elle ne connaîtra pas la restauration. Plutôt, la désolation. Et finalement, il y a les évidences. Il y a la sentence, il y a les évidences maintenant que Dieu va donner. Il va amener trois preuves qui nous démontrent que Babylone avait enfreint ses lois, les lois d'un Dieu saint, la rendant ainsi coupable du jugement. Il commence avec la sévérité des marchands. Il va dire ceci: car tes marchands étaient les grands de la terre. Verset 23c. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que Dieu va détruire justement cette ville et il va utiliser comme évidence contre elle le fait que les marchands étaient des grands? Vous savez, tout d'abord, ces marchands sont riches. Le texte nous dit, qu'on a vu la semaine dernière, verset 15, que ces marchands se sont enrichis, justement, par les richesses de Babylone. Et dans un système mondial corrompu, diabolique, il faut déduire ici que ce sont des mauvais riches. Et leur réaction lorsque Babylone a chuté nous prouve justement que ce sont des mauvais riches. Et ce qui va nous aider à comprendre ce texte, c'est dans Jacques, pas besoin d'y tourner, mais dans Jacques chapitre 5, il y a un texte qui est parallèle. Parce que Jacques va parler justement des mauvais riches. Et il va dire ceci: voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et c'est comme ça que les mauvais riches agissaient. Ils opprimaient justement les pauvres, ceux qui étaient sans défense, qui ne pouvaient rien faire contre les grands. Ils abusaient justement de leur pouvoir. Et l'argument ici dans l'Apocalypse est le suivant: les marchands de Babylone, les grands de la terre, à l'instar justement de ces mauvais riches dont parle Jacques, étaient coupables du même crime: l'abus du pouvoir. Et puisque le pouvoir venait de leur position et leur position venait de leur richesse, qu'est-ce que Dieu fait? Il va mettre fin à cet abus en mettant fin à la source de richesse, en détruisant Babylone la grande. Deuxièmement, il y a aussi la séduction des nations. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Le texte nous dit par tes sorcelleries. Et Babylone n'avait pas seulement rejeté justement la vérité. Il y avait des deux témoins qui avaient prêché. Il y avait un ange qui avait l'évangile éternel. Il y avait des martyrs qui étaient là, qui donnaient témoignage. Mais Babylone aussi avait propagé un faux système religieux que la Bible décrit ici comme la sorcellerie. Et un Dieu saint ne pouvait aucunement tolérer une telle acte. Et finalement, Babylone est détruite à cause du sang des martyrs. Quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et il y a des martyrs ici qui ont été tués. Le sang a coulé. Et ce sang-là a crié jusqu'à Dieu. Et le juste juge avait entendu. Voilà pourquoi Babylone, la grande, avait été détruite. Je termine avec ceci. La sainteté de Dieu, chers amis, il faut le prendre au sérieux. Et si ce matin, vous vivez avec un péché qui est non confessé, que ce soit l'amertume, la jalousie, les querelles, la débauche, qu'importe, Dieu ne vous détruira pas comme Babylone, ça c'est sûr, vous êtes sans enfant, mais vous allez connaître un désert spirituel. Et pourquoi en est-il ainsi? Parce que le péché attriste l'esprit, et le texte nous dit c'est l'Esprit Saint. Alors quand on a un péché non confessé, la sainteté de Dieu est offusquée. Et si on se trouve ce matin dans le deuil, au lieu de la joie, il y a la place pour la repentance, il y a la place pour la restauration. Le Seigneur a dit ceci à Israël, à notre frère aussi Maurice ce matin a cité ce verset, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, et une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit battu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, en plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Et on peut retrouver notre joie. Israël a dit dans Psaume 126, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. » Et ceux qui sont en train de connaître un désert spirituel à cause du péché, il y a la restauration, il y a aussi, on peut retrouver notre communion, on peut retrouver notre joie. Et si vous n'avez jamais justement expérimenté la joie du salut de Dieu, parce que vous n'avez jamais mis votre confiance dans le Seigneur, mais vous savez, vous pouvez aussi connaître la joie. Et je pense ici à l'eunuque dans le livre des Actes, un homme qui lisait le prophète Isaïe, où le texte nous dit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et cet homme a cru cette parole. Il a dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui était mort pour ses péchés. » Et la Bible nous dit que, joyeux, il a poursuivi sa route. Vous savez, célébration au ciel, et la Bible nous dit ce matin qu'il peut aussi avoir la célébration sur la terre. Dans Luc chapitre 15, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et qu'il nous encourage. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ce livre qui est rempli, Seigneur, d'instructions pour nous. Nous demandons d'appliquer cette parole à nos cœurs, dans nous, Seigneur, de marcher dans tes voies, d'être de ceux qui se réjouissent parce que tu as fait pour nous de grandes choses. S'il y a quelqu'un parmi nous qui ne te connaît pas, Seigneur, on te demande d'ouvrir aussi les yeux d'une telle personne afin qu'elle puisse te connaître comme leur sauveur personnel. Et nous demandons ces grâces en ton nom et pour ta gloire. Amen.